Bonjour, le début d'une vie plus sereine pour 42 migrants de l'Aquarius. Ces jeunes Soudanais, d'abord pris en charge à Valence en Espagne, avaient finalement été accueillis par la mairie de Lille il y a 3 semaines. Et hier, lors d'une cérémonie, ils ont officiellement obtenu le statut de réfugiés, un statut qui leur permet d'obtenir une carte de résident valable 10 ans. Reportage de Mathieu Darrier.
Un par un, ils se lèvent tout sourire. Certains sont émus. Ça y est, les 42 Soudanais se voient remettre officiellement leur titre de réfugié. Plusieurs mois après avoir quitté le Soudan, c'est un peu la fin du périple pour Hassan, l'un de ces réfugiés.
Les dernières semaines ont été pour nous des semaines merveilleuses, comparativement d'abord à ce qu'on a vécu avant, que ce soit en Libye ou en traversant la Méditerranée. Ensuite, on est arrivé à Lille, on a été surpris par l'accueil chaleureux des habitants de l'île. Et pour nous, c'est un nouveau départ dans nos vies respectives.
Se former, travailler, se soigner, le statut de réfugié permet tout cela, même si l'intégration dans la société se fera petit à petit, selon Martine Aubry, la maire de l'île.
Ce que nous souhaitons, ce n'est pas qu'ils vivent de l'assistance, c'est qu'ils trouvent un travail, et déjà des entreprises nous le proposent, mais vous avez bien compris que le premier pas, c'est d'abord d'apprendre le français, et dès qu'ils se débrouilleront en français, on pourra passer vers le parcours professionnel ou l'emploi, car certains ont déjà des diplômes.
Toutefois, tous les demandeurs d'asile ne bénéficient pas des mêmes conditions d'intégration. En moyenne, il faut 6 mois pour obtenir le statut de réfugié. Les Soudanais de l'Aquarius ont obtenu leur titre en moins de 3 semaines. Un accord franco-espagnol a permis de pré-instruire leur dossier dès leur arrivée en Espagne.
Et puis ce chiffre, ces 7 derniers mois, plus de 1500 réfugiés et migrants ont perdu la vie en tentant de traverser la Méditerranée. Annonce hier du Haut Commissariat aux réfugiés, plus de 850 personnes sont mortes ces 2 derniers mois. Le Brexit discuté à table dans le Var pour sa première soirée de vacances. Emmanuel Macron recevait hier soir la dirigeante britannique Theresa May. Au programme, un dîner au fort de Brégançon après une réunion de travail avant la reprise dans quelques jours des négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Au Brésil, la campagne présidentielle n'a pas encore officiellement commencé, mais c'est tout comme. Aujourd'hui, Geraldo Alckmin doit être investi candidat par son parti, le PSDB, à droite. Même chose à gauche pour Lula, même s'il est toujours en détention pour corruption. L'ex-président doit être investi par le Parti des Travailleurs. Après 30 ans de duel, les deux grands partis voient leur hégémonie remise en cause suite au scandale du lavage à taux, le plus grand scandale de corruption de l'histoire du pays. Décryptage de Jean-Mathieu Albertini.
Très bas dans les sondages, avec seulement 6% d'intention de vote, Geraldo Alckmin vient pourtant de réussir 2 coups de maître ces derniers jours. D'abord en s'alliant avec la dizaine de partis du centre qui représentent financement et temps de propagande électorale à la télévision, puis en désignant comme vice-présidente une sénatrice très à droite afin de siphonner la réserve d'électeurs de Jair Bolsonaro, le candidat d'extrême droite qui culmine à 17% d'intention de vote. De son côté, Lula, isolé depuis sa prison, a malgré tout réussi à réduire la menace venue de la candidature de Ciro Gomes. L'ex-président a parfaitement réussi à manœuvrer pour éviter que son adversaire de gauche ne s'allie avec d'autres partis politiques. Mais Lula fait face à un autre problème de taille, même s'il reste largement en tête des sondages avec 33% des voix. La justice électorale devrait annuler sa candidature à cause de sa condamnation pour corruption, et ce, à quelques semaines du premier tour. Le PT espère à ce moment-là réussir à transférer les votes en faveur de Lula vers un autre candidat dont le nom n'a pas encore été annoncé. Malgré ces contre-attaques, cette élection reste totalement incertaine. Personne ne sait si la candidature de Bolsonaro va s'essouffler ou si l'écologiste Marina Silva, abonnée à la 3e place des présidentielles, va réussir cette fois à s'imposer. Les prévisions sont d'autant plus confuses qu'à 2 mois des élections, 60% des Brésiliens n'ont toujours pas décidé pour qui voter.
Jean-Mathieu Albertini pour France Culture. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a appelé à maintenir la pression sur la Corée du Nord tant qu'elle n'aura pas abandonné ses armes nucléaires. Pompeo a notamment visé la Russie dans son discours. Voler des œuvres d'art et ne pas s'en cacher, c'est ce que fait une exposition qui vient de s'ouvrir à Tel Aviv en Israël. Arab Stolen Art, art arabe volé. Une galerie expose sans leur accord et anonymement des artistes du monde arabe. Le responsable de l'exposition revendique une performance artistique pour questionner notamment le boycott culturel appliqué par des artistes, chanteurs, acteurs qui refusent de se produire en Israël. Reportage à Tel Aviv de Marie Semelin.
Dans cette galerie, pas de nom d'artiste, simplement des œuvres vidéo. Omer Krieger, l'organisateur, affirme avoir contacté leurs auteurs pour cette exposition. Et puis, devant leur silence ou leur refus, a décidé de la faire quand même, sans autorisation.
Il y a un amour très personnel pour l'art qui est originaire de cette région et des pays qui sont voisins d'Israël. Et puis, une prise d'otage est un acte performatif, très dramatique. Et dans un sens, c'est ce que nous avons fait ici. On peut aussi s'interroger pour savoir si les œuvres d'art ont une opinion ou peut-être qu'elles ne sont là que pour être détournées ou de nouveau penser, mais ça ne regarde plus l'artiste.
Ici, la performance a été plutôt mal reçue. Roula Khoury, palestinienne d'Israël et curatrice réputée, évoque une démarche non éthique.
C'est un point de vue de Tel Aviv, de quelqu'un qui est dans une bulle ici. Il pense qu'il mérite d'avoir une exposition d'art du monde arabe. Je ne comprends pas les Israéliens. Ils forcent à ouvrir un dialogue, mais ils ne voient pas pourquoi nous ne sommes pas prêts à ouvrir cette discussion avec eux. Ils ignorent ce que fait leur gouvernement.
Difficile de savoir qui est exposé. Un artiste égyptien, en tout cas, a été identifié, Wael Chaouki, qui présente son travail dans le monde entier. Depuis l'Égypte où il vit, il évoque un vol pur et simple et s'oppose au débat même que cette galerie veut proposer.
Je suis catégoriquement contre exposer, pas seulement en Israël, mais dans n'importe quel endroit qui viole les droits humains. L'ensemble de mon travail parle des droits de l'homme. La deuxième chose, c'est que je refuse radicalement de catégoriser mon travail et de me catégoriser en tant qu'artiste arabe, qu'on puisse ensuite récupérer ça pour le mettre dans un contexte politique.
Il envisage avec sa galerie londonienne de porter plainte, mais pas sûr que ce soit légalement possible, puisque l'exposition est donc en Israël, dans un autre pays.
Marie Semelin à Tel Aviv. La météo en France, attention aux fortes chaleurs. Aujourd'hui encore, 67 départements sont en vigilance orange à la canicule. Et ça concerne une très large partie du pays, sauf au bord de la Manche. Entre 32 et 38 degrés dans le sud aujourd'hui, 31 à 35 dans la moitié nord et pas plus de 26 degrés dans le nord-ouest.